Bienvenue dans l'émission, l'antenne est à vous. Aujourd'hui, nous allons parler, eh bien, jeux vidéo, mais pas seulement. On va parler geek, on va parler prévention, on va parler rétro gaming, on va parler de plein de choses très intéressantes avec nos deux invités. Alors, nous recevons honneur aux dames, tout d'abord, eh bien, madame Myriam Lachaise. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais préciser que vous êtes vice-présidente de l'association, donc, PXLAN Organisation, si je me trompe pas.
PXL Organisation.
PXL, pardon. Non, PXLAN, c'est parce que c'est le site internet. Et vous êtes venu accompagné de votre mari président, monsieur Julien Lachaise. Bonjour.
Bonjour.
Alors donc, je dis qu'on va parler de jeux vidéo. C'est à l'occasion d'ailleurs du salon du jeu vidéo qui aura lieu à Saint-Martin-de-Crau les 29 et 30 octobre à la salle Mistral, ce qui est le prétexte bien sûr de cette émission. Rappelons déjà à nos amis auditeurs ce qu'est votre association, la motivation qui l'anime, le moteur, l'ADN quelque part de PXL.
Alors en fait, il y a une douzaine d'années, on a créé cette association pour organiser des compétitions de jeux vidéo. Ça dure encore, à peu près 8 ans, où on faisait exclusivement des compétitions. Et depuis quelques années, on organise en plus des salons du jeu vidéo. Donc on a touché un peu tout le milieu du jeu vidéo.
Ouais. Le déclic est arrivé en fait en 2010. Lorsque nous avons été contactés par Octobre Numérique, le label de la mairie d'Arles, pour faire partie donc des événements d'Octobre Numérique. Et quelques mois plus tard, nous avons été invités au Festival International des Jeux à Cannes. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait vraiment un public, une demande, un intérêt pour le jeu vidéo, beaucoup de questions, et on a décidé d'ouvrir nos événements au public. Et donc, c'est passé par des animations, puis ensuite de la pédagogie, de la prévention.
Ouais. Avant l'envie d'organiser des salons, vous étiez vous-même joueur, si je ne m'abuse.
C'est bien ça. Je faisais partie d'une équipe Counter-Strike qui était sponsorisée par Microsoft. Et donc, en fait, on a gagné une cinquantaine d'événements en France, en Belgique. Un peu partout, voilà.
Ouais. Là, vous avez vu le côté sympa de la chose, c'est-à-dire que on est quelque part un petit peu des stars, entre guillemets, ou du moins on vient se faire plaisir et en même temps, c'est financé, c'est suivi, quoi.
Voilà, il y a deux choses. La première chose, c'est on arrive, on met les pieds sous la table et on joue. Ensuite, effectivement, dans la plupart des cas, on a gagné les compétitions et donc on repartait avec des lots, donc c'était toujours sympa. Maintenant, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut faire toute l'installation, il faut démarcher des partenaires, tout préparer, c'est quand même une autre paire de manches d'organiser tout ça.
Voilà. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, on va pas dire votre âge à l'antenne, mais vous êtes considéré comme étant à la retraite, on va dire, du milieu du jeu vidéo en tant que compétiteur?
Ah oui, c'est sûr que je suis à la retraite. Ça fait un bon paquet de temps que je joue plus en compétition. J'ai plus le niveau, j'ai plus le temps de jouer.
Ça fait 10 ans.
Voilà. Et on peut pas tout faire. Enfin, ouais. Dans 24 heures, il y a pas assez de temps pour tout faire. Voilà.
Ouais. On va dire que les personnes qui excellent dans le jeu vidéo, elles sont dans une tranche d'âge bien déterminée. Ça correspond à une période de vivacité, entre guillemets, de l'esprit. Et là, on pourra en parler en détail un petit peu plus tard, mais c'est ça. C'est-à-dire que passé un certain âge, de toute façon, on est dépassé.
Oui, en fait, à partir de 14 ans, les joueurs deviennent assez bons. Et ils vont jusqu'à 26 ans, on va dire. Où c'est là où ils sont souvent à la fin de leur carrière, parce qu'après il y a la relève qui arrive et qui est encore meilleure qu'eux et qui ont plus de réflexes qu'eux, quoi.
Ouais. Et les Français sont bien situés sur le tableau de chasse mondial, on va dire, entre guillemets, au niveau des jeux vidéo.
Oui, alors il y a pas mal de champions du monde parmi les Français. Il y a des très bons joueurs pour le jeu Counter-Strike sur lequel on organise la compétition. On a été pendant de nombreuses années meilleure équipe, pendant 3-4 ans, la meilleure équipe qui était imbattable, quoi. Et après, sur d'autres jeux de stratégie, il y a un joueur arlésien, par exemple, Todd, qui jouait à Warcraft 3 et Starcraft 2, qui était, pareil, champion du monde, qui est parti vivre en Corée pour sa passion.
En Corée, c'est une véritable star. Ouais. Il fait des shows télé, lorsqu'il marche dans la rue, il signe des autographes. Là-bas, les mentalités sont beaucoup plus avancées que chez nous. Le jeu vidéo est intégré dans la vie quotidienne au même titre que le foot chez nous. Voilà, pour eux, une star du jeu vidéo, ça...
On parlera de la perception du jeu dans notre société un petit peu plus tard. Alors c'est vrai que c'est souvent le Graal, la Corée. Je sais pas pourquoi j'aurais pensé le Japon, mais souvent les jeunes disent « Ah ouais, la Corée, pourquoi ?» Parce qu'il y a globalement une mutation de la société au niveau technologique qui a été opérée en Corée du Sud, je précise, qui n'existe peut-être pas ailleurs, entre guillemets.
Alors je sais pas si c'est ça. En fait, il y a surtout des jeunes joueurs qui sont... capable de jouer mais 14 heures d'affilée pour devenir le meilleur. Voilà, leur ambition c'est d'être les meilleurs et donc ils vont faire tout ce qui est possible pour y arriver et donc enchaîner des entraînements jusqu'à devenir les meilleurs. Donc c'est vrai qu'ils sur certains jeux de stratégie comme StarCraft, ils sont des redoutables adversaires et ils ont pendant de nombreuses années dominé la scène sans souci quoi.
Ouais, on fait des gammes là aussi, on répète des gestes, des raccourcis, des combinaisons de touches sur son clavier ou sur ses manettes dédiées, je sais pas.
Non, ça après c'est plus des habitudes, c'est des réflexes, mais c'est surtout faire travailler son cerveau pour mettre en place des stratégies pour contrer ses adversaires, pour aller toujours plus vite que son adversaire. Pour construire des armées, pour attaquer la base adverse, ainsi de suite. Sachant que c'est des personnes qui font plus de 200 actions par minute. Et en même temps, ils sont capables de contrôler, on va dire, 50 unités différentes qui se trouvent à différents endroits de la carte. Donc c'est impressionnant à faire et moi j'en suis totalement incapable. J'ai essayé plusieurs reprises, j'y arrive pas.
De remonter en selle et c'était pas ça. C'était... Ouais, des sensations perdues peut-être un petit peu.
Non, bah moi je jouais un autre style de jeu qui est plus...
Demandait beaucoup moins de dextérité. Mais ces joueurs-là, les scientifiques ont prouvé qu'ils avaient le cortex préfrontal plus développé que la moyenne. Ouais. Justement, le point de la dextérité, mais c'est... Au début, vous tâtonnez quand vous démarrez. Vous regardez vos doigts là où vous devez appuyer sur quelle touche. Mais après, ça devient des automatismes et ils font ça à une vitesse hallucinante.
Ouais. C'est ce qu'on appelle le développement cognitif, donc ça a des vertus, justement, le jeu vidéo, oui. Parce qu'on parle des serious games, hein, en milieu d'entreprise et ailleurs, mais le jeu vidéo, le basique, celui dont on parle, hein, Counter-Strike ou d'autres, a son lot d'apports intéressants aussi pour les joueurs.
Bien sûr. Alors, bon, bien sûr, il y a la dextérité, il y a le fait d'apprendre à jouer en équipe. À jouer en équipe. Et c'est très important après pour... C'est une qualité qui va être utile dans le milieu professionnel. Apprendre à travailler en groupe, à pas se tirer dans les pattes. C'est-à-dire que c'est très important, par exemple, dans une équipe de 5, que chacun tienne son poste, mais quand un, par exemple, est éliminé, que les autres soient capables de compenser en se positionnant différemment. Il y a des stratégies mises en place. Donc, le cerveau est tout le temps en train de fonctionner et la réflexion est là. Et en plus, souvent, les jeux aussi sont en anglais. Donc, les joueurs de jeux vidéo sont très bons, bon, en anglais et parfois aussi en coréen ou en chinois, parce qu'il y a aussi des jeux...
Ah oui, d'accord, ça va très très loin. Mais c'est vrai que l'apprentissage de la langue, et surtout de la langue vivante, hein, c'est-à-dire que celle qui est parlée par les anglo-saxons, les américains ou autres, oui, est beaucoup plus intéressante que l'anglais académique, entre guillemets, quoi.
Ah ben là, ils le pratiquent.
Ouais, c'est assez incroyable. Hein.
Donc forcément, après, ils ont des facilités et même les grands joueurs, ben maintenant, la plupart vivent à l'étranger. Et ils n'ont aucun problème avec la langue parce qu'ils apprennent plus vite la langue du pays parce qu'ils ont ce réflexe, le cerveau a mis en place cette faculté à apprendre facilement une langue vivante. Et c'est un atout majeur. On vous parlait de Todd tout à l'heure. Maintenant, il est en Allemagne. Il est retraité du jeu vidéo, mais il travaille dans le...
Il fait des commentaires il commente des parties de jeux vidéo.
Ouais. On en parlera. Ça sera un des aspects d'ailleurs abordés, hein, dans votre rendez-vous, hein. Et alors, justement, vous-même, à votre époque, entre guillemets, j'aime bien dire ça, à votre époque, l'anglais était présent, la langue étrangère en règle générale?
Ah oui, c'était, il y avait pas mal de dialogues en anglais parce qu'en fait, on jouait au niveau européen. Donc en fait, notre équipe affrontait des Anglais, des Allemands, ainsi de suite. Et donc, il fallait s'inscrire sur des sites qui étaient tout en anglais, il fallait organiser des matchs tout en anglais, se mettre en relation. Et voilà, les Anglais ne parlent pas français, ouais, donc il faut
s'adapter
à eux.
Donc à l'époque, des bonnes notes en anglais?
Oui.
Bonnes ou très bonnes?
J'ai toujours eu de bonnes, voire très bonnes notes. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis comme je travaille dans l'informatique, j'ai aussi pas mal... de logiciels qui sont en anglais, ou donc où, quand il y a des soucis, bah, il faut se documenter et c'est toujours en anglais. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé.
Voilà. Hein. Quand votre enfant sera derrière une console, pensez à tout l'intérêt, peut-être, bah, de au moins de s'améliorer. Si vous dites, bah non, je travaille mon anglais, vous pourrez pas dire non, c'est pas vrai. C'est voilà, ça. C'est vrai, c'est ça. Allez, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette émission. L'antenne est à vous. Je rappelle, hein, on parle de ce salon du jeu vidéo qui aura lieu à Saint-Martin-de-Crau les 29 et 30 octobre prochains, salle Mistral. C'est dans le cadre d'Octobre Numérique, hein, cette manifestation qui, à l'époque, était arlésienne, mais qui devient du coup à l'échelle du territoire avec cette incursion à Saint-Martin-de-Crau, et c'est très bien. Avec la communauté d'agglomération, bien sûr. On fait une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour aborder un petit peu toutes les facettes de ce rendez-vous, car vous allez le découvrir, il y en aura un petit peu pour tout le monde. La musique tout de suite, elle est choisie par nos amis, eh bien, invités. Eh ben, ça, pourquoi pas. Ça sera, tiens, pour madame, du David Guetta. À l'écoute de l'émission, l'antenne est à vous avec nos invités. Ils animent, eh bien, cette association qui s'appelle PXL. C'est bien ça, hein, PXL. Oui. Donc, organisation, ils vous organisent ce fameux salon du jeu vidéo qui aura lieu à Saint-Martin-de-Crau les 29 et 30 octobre prochains, salle Mistral, qu'on se le dise. Alors, il y a de nombreux partenaires avec vous. Ils ne pouvaient pas être en studio, hein. Et on en a, vous en avez choisi un. Il s'agit de la ferme 3D, surtout de monsieur Florent Carrasco. Il est avec nous en ligne. Bonjour. Alors, bienvenue dans l'émission L'Antenne est à vous. Faites partie de ses partenaires. Alors, déjà, à nos amis organisateurs, monsieur et madame Lachaise, pourquoi le choix de représenter une activité 3D dans un salon tel que le vôtre?
Ben en fait, on souhaite faire découvrir aux gens des activités qu'ils ne peuvent pas trop avoir chez eux. Donc l'impression 3D est une nouvelle technologie qui est très impressionnante et qui va se démocratiser de plus en plus. Et donc, comme il a une entreprise sur Arles, c'était parfait et c'était évident de le faire venir.
Ben voilà, coup de pouce à un acteur local. Monsieur Carrasco, la 3D, véritablement le vent en poupe et nous prépare de bonnes surprises pour l'avenir ?
Oui, effectivement, c'est très évolutif. De toutes les semaines, il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent, des nouveaux matériaux, des nouveaux marchés. Donc on a voulu évidemment donner un coup de pouce à la PXL qu'on suit depuis de nombreuses années, à titre personnel également. Voilà, donc ça permet aussi aux jeunes générations de voir un petit peu la technologie, de la comprendre. Et puis pourquoi pas de travailler plus tard dans ce domaine.
Alors c'est vrai que pour vous c'est un effet promotion communication, mais c'est surtout une promotion que vous faites pour les technologies 3D, parce que vous allez nous expliquer plein de choses le temps d'un week-end.
Mais tout à fait, c'est-à-dire que là on va mettre à disposition un petit peu le savoir-faire. Là on va dire qu'on a des machines quand même qui sont à la pointe au niveau français. On est encore sur un salon professionnel. Où il y a des grands acteurs industriels qui utilisent les mêmes machines qu'on a. Donc de pouvoir effectivement avoir à disposition ce type de technologie aux joueurs pendant ce salon, voilà, à toute cette génération qui est si sensible à cette technologie, ben voilà, nous on prend parti pour montrer cette ouverture et le futur.
Alors justement, le futur, parce que vous allez proposer peut-être des goodies, des réalisations faites sur l'événement ou préparées pour l'événement. Vous allez leur parler de tout ce qu'on va pouvoir faire avec ces technologies d'impression 3D, je sais pas, la peau, les os, les organes humains en règle générale, les pièces mécaniques et métalliques, parce que là, pour l'instant, c'est essentiellement, on va dire, issu des domaines de la plasturgie, c'est ça ?
Alors exactement, donc les matériaux que nous, on utilise pour l'instant, dernièrement, on utilise des filaments à base de bronze, de cuivre, qui sont chargés à 80%. Donc, on est carrément, c'est carrément de la fonderie. Ça permet d'ouvrir d'autres perspectives au niveau, par exemple, du marché de l'art, surtout à Arles, qui avait la romanité, qui est très concernée. Donc, on a par exemple imprimé le buste de César en bronze. Donc, vous pourrez venir le découvrir lors du salon en exclusivité. Voilà. Donc, ça, c'est par exemple, c'est des choses qui sont extrêmement nouvelles. Et qui offre de nouvelles perspectives.
Bon, on parle de construire sa voiture dans l'avenir, de construire ces appareils dont on aura besoin de A à Z en achetant peut-être un fichier pour réaliser l'outil dont on a besoin. Vous, sur le week-end, vous allez venir avec quel type de réalisation ?
Alors effectivement, c'est des gros sujets, notamment chez la société Seb, qui va dématérialiser leur stock. C'est-à-dire que demain, une pièce qui est cassée, va pouvoir être remplacé par l'imprimante 3D au lieu de racheter entièrement une machine. Donc l'obsolescence programmée, on va dire que on l'a vécu, mais il y a des changements qui sont en train de s'opérer au niveau des industriels. Donc on va avoir sur le salon de la PXL pas mal de pièces techniques aussi pour montrer un petit peu que l'imprimante 3D, effectivement, les médias en parlent beaucoup pour faire à la maison, pour faire des jouets, des gadgets. C'est bien plus sérieux que ça.
Bien plus sérieux que ça. Vous, le reste du temps, vous faites quoi ? Parce que vous allez être avec nous sur le salon, mais on fait appel à vous. Pour quel type de prestations, de services ? Expliquez-nous.
Alors en fait, nous, on est un centre de formation hébergé au sein de l'IRA, du CIPEN. Donc en fait, on fait des formations pour les industriels. Notre premier métier, c'est d'accompagner des bureaux d'études, des bureaux d'ingénierie, à appréhender cette technologie et surtout à la manipuler. Parce que là, aujourd'hui, tous les métiers sont concernés. Ça va du dentaire pour les prothésistes à l'industrie, en passant par de l'aéronautique. Et voilà, donc c'est des sujets qui sont sensibles et d'actualité dans beaucoup de secteurs.
Quand vous voyez des grandes entreprises et des fois nationales qui disent « Tiens, on va ouvrir un espace et permettre aux gens de venir imprimer leurs objets », ça vous donne des idées au niveau local ?
Oui, bah après, au niveau local, voilà, nous, l'idée, c'est que la ferme 3D, elle est accessible aussi à tous les Arlésiens et aux pays d'Arles en général. Donc, on les accueille pour qu'ils puissent découvrir cette technologie. Maintenant, c'est vrai que le fait de participer au salon PXL, ça permet, voilà, de toucher un public qui n'aurait pas osé venir pousser la porte d'une imprimerie 3D.
Bon, et si on veut pousser la porte de votre établissement, on vous retrouve où en attendant de venir vous rencontrer au salon ?
Alors si après, pour des projets un petit peu professionnels ou semi-professionnels, on est au 23 chemin des moines dans le campus IRA en Arles.
Ben voilà, c'est dit. Merci Florent Carrasco, donc la femme 3D, partenaire donc de cette édition 2016 qui se déroulera à Saint-Martin-de-Crau du Salon du Jeu Vidéo, donc à la salle Mistral les 29 et 30 octobre. Je vous dis bon vent et surtout on attend de voir un petit peu votre machine, vos machines extraordinaires et surtout les réalisations que vous allez nous faire le temps d'un week-end.
Et ben avec plaisir, on sera présent.
Écoute de l'émission L'Antenne est à vous. Je rappelle que les pauses musicales sont choisies par nos invités. Hein. Voilà. On parle de quoi ? On parle du salon du jeu vidéo à Saint-Martin-de-Crau les 29 et 30 octobre, salle Mistral. On rappelle que c'est une manifestation qui est associée à l'opération Octobre Numérique qui est née eh bien, à Arles et qui se développe sur ce territoire de la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette. On parlait des partenaires d'ailleurs. La CCM est un de vos partenaires pour cette édition 2016. Hein.
Oui, c'est exact. C'est la première fois que nous allons travailler avec la CCM. Bon, c'est un partenariat très récent, mais nous sommes ravis.
Ouais. Il y a une nécessité, quoi qu'il arrive, d'avoir des partenaires financiers, structurants, oui, qui permettent d'organiser ce type d'événement, ou vous pouvez vous en passer ?
Non, vraiment, c'est indispensable parce que ben il y a des coûts, il y a toujours la volonté d'investir dans des animations nouvelles, d'améliorer les serveurs, d'améliorer le matériel. Ça représente un coût qui n'est pas négligeable et le fait d'avoir des subventions nous aide beaucoup. Maintenant aussi, depuis quelque temps, on doit aussi investir dans des agents de sécurité. Donc c'est pareil.
Et oui. Manifestation publique, donc il y a une nécessité de toute façon à sécuriser dès que qu'on vit des personnes à participer à un événement sur un lieu comme ça. Question, c'est un gros investissement pour une association telle que la vôtre d'avoir cette plateforme technique sous votre propriété.
Ben en fait, au fil des années, chaque fois qu'on a pu avoir un peu de bénéfice, on a réinvesti ce bénéfice. Donc on a acheté nos propres serveurs qu'on remet à jour régulièrement. On a acheté notre matériel électrique, donc on peut alimenter pour plus de 500 PC, par exemple. Donc c'est que ça soit des armoires électriques, des câbles, des rallonges électriques, des multiprises, on a vraiment tout. On a la même chose au niveau du réseau, on a une trentaine de switch avec des kilomètres et des kilomètres de câbles.
On a beaucoup de matériel pour les animations, on a des jeux, on a des flippers. Notre association propose beaucoup de rétro gaming. Donc on a
des jeux d'arcade, non,
oui.
C'est ça, entre autres.
Des vieilles consoles, oui.
Consoles, forcément des vieilles télés, parce que ces vieilles consoles marchent sur des vieilles télés. Et tout ça, ça représente, oui, un investissement.
Ouais. Justement, rétro gaming, ça fait partie d'une des facettes, c'est-à-dire que à l'origine, il n'y avait que l'aspect compétition. Petit à petit, vous avez étoffé la proposition.
C'est ça. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Au départ, on ne proposait que des compétitions. Et puis, quand on nous a proposé de participer à Octobre numérique, forcément, ça a impliqué une ouverture au public. Donc, on a proposé quelques animations. Et puis ensuite, nous avons été au Festival international des Jeux à Cannes. Et là, en dialoguant avec les visiteurs, je me suis rendu compte que le jeu vidéo était pas forcément très bien perçu. Pas très bien compris, et notamment avec le problème de l'addiction. Et là, j'ai commencé à travailler là-dessus et à monter un dossier qui explique ce que c'est que l'addiction, et de façon à ce que les gens soient mieux renseignés, qu'il y ait moins de problèmes, moins d'ennuis, et en leur expliquant, par exemple, quels sont les critères.
Les points qui vont faire qu'on va voir si une personne est addict ou pas.
Voilà. Parce que la barrière entre passion et addiction est relativement mince. Souvent, les gens pensent que c'est parce que leur ado joue beaucoup, beaucoup d'heures. Mais ce n'est pas forcément ça. C'est surtout une coupure. Ils ont plus d'amis, ils ont plus de vie sociale. Ils sont en échec scolaire ou professionnel. Donc, ça représente une dimension autre que le fait de jouer beaucoup, parce qu'il y a des gens qui jouent beaucoup, mais qui sont tout à fait capables le dimanche d'aller faire un foot avec les copains, qui travaillent très bien en classe, qui n'ont absolument aucun problème. Et donc, il était important de le préciser et de rassurer les gens. Et dans le cas où effectivement une personne est victime d'addiction, de leur conseiller de s'orienter vers un thérapeute.
Ouais. Et vous l'avez dit quand on a préparé, on a déjà fait une interview qui passera ultérieurement, bien sûr, sur les ondes de Soleil FM pour faire la promotion du rendez-vous. Mais avait dit, mais il faut aussi que les parents s'intéressent à l'univers du jeu de leurs enfants, sans parler d'addiction, mais s'y intéressent, comprennent un petit peu les codes.
C'est ça. Bah, c'est-à-dire que le jeu vidéo maintenant, il fait partie de notre quotidien. Que vous achetiez un téléphone, une tablette graphique, un ordinateur, une console. Bon, voilà, il y en a partout. Et donc, il faut apprendre à vivre avec de façon saine. Et je pense que ça commence dès le plus jeune âge. Il faut intégrer ça dans l'éducation au quotidien. Pour éviter justement les dérives, que plus tard un ado joue trop longtemps aux jeux vidéo, qu'il n'arrive plus à faire la distinction entre le monde réel, le monde virtuel. C'est très bien que tout petit, on lui explique, oui, le jeu vidéo, c'est un loisir, c'est très bien, mais tu fais d'abord tes devoirs. Et lorsqu'ils seront terminés, la récompense, c'est que tu auras droit, par exemple, à une demi-heure en semaine et une heure le week-end. Bon, ça, c'est pour un enfant, un petit enfant en dessous de 10 ans. Après, évidemment, vous adaptez les temps de jeu avec l'âge. Mais c'est pas mal de l'encadrer et de s'intéresser, de savoir à quel jeu il joue, avec qui il joue, voilà.
Ouais. Bah, c'est comme la vie, quoi, tout simplement, hein, quand on parle avec ses enfants de ce qui se passe à l'école, hein, chez les copains, voilà, on s'intéresse à leur, voilà, à leur bulle, à leur univers.
On l'accompagne.
Alors, ça, c'est un aspect que vous développez dans le salon parce qu'il va y avoir une sorte d'exposition qui explique un petit peu tout ça, les différentes phases.
C'est ça. Hein. Nous avons développé une partie pédagogie. Donc, au départ, il était question de l'addiction. Ensuite, nous avons abordé le thème des métiers du jeu vidéo, et c'est à ce moment-là que nous avons mis en place le concours Jeunes Créateurs avec les élèves de l'IUT d'Arles, donc qui réalisent des affiches et des clips vidéo, ce qui permet de montrer de façon concrète ce que une formation à l'IUT permet de réaliser. Ensuite, je me suis intéressée à l'utilisation des jeux vidéo dans le milieu médical, comme je le disais, par exemple, pour aider un adolescent lorsqu'il traverse une phase de dépression. Il y a des thérapeutes qui se sont intéressés aux mécanismes positifs du jeu vidéo et qui ont créé un jeu de toutes pièces qui permet de revaloriser son estime, de reprendre confiance en soi. Il y a aussi des jeux vidéo qui permettent aux personnes âgées de récupérer des capacités cognitives, donc en faisant mieux travailler son cerveau, ou bien lorsqu'une personne a été victime d'un AVC. En faisant travailler la zone du cerveau qui est affaiblie, on réussit à récupérer un petit peu. Et voilà, et c'était intéressant. Et il y a aussi le fait que le jeu vidéo peut aider à supporter, par exemple, l'hospitalisation de longue durée, notamment à Montpellier, à l'hôpital La Péronie. Ils ont introduit des consoles et ils les portent dans les chambres des enfants et ça les aide à supporter l'hospitalisation, l'enfermement. C'est compliqué, ouais, quand on est tout petit.
Il y a la douleur, il y a la maladie, mais il y a l'attente. Hein. Et
c'est
l'attente,
ça.
C'est très très long. On s'ennuie très très vite à l'hôpital.
Et
hein.
C'est de les occuper, c'est plus facile.
Voilà.
Et le moral reste meilleur.
Je pense à un documentaire que j'ai vu cette semaine à la télé où un enfant était content d'avoir l'école à l'hôpital. Et c'était presque une récréation pour lui parce qu'il voulait apprendre, il voulait faire quelque chose. Et c'était une très très belle image. Ça, c'est pour l'aspect donc supplémentaire que vous avez apporté au salon du jeu vidéo.
Oui.
Mais c'est un univers très particulier car ils vont arriver avec leur sac à dos, avec leurs ordinateurs, leurs écrans. Ils arrivent avec tout leur matériel, hein, c'est-à-dire qu'ils sont équipés. Hein.
Oui, donc ça, c'est pour la partie compétition. Donc c'est un tournoi national où il y a à peu près 32 équipes de 5 joueurs, ça fait 160 joueurs qui vont se déplacer toute la France pour remporter des dotations. Donc il faut.
Je vous ai posé la question, je vous ai dit ah oui, mais ils gagnent pas de clavier, d'écran, de choses comme ça. Et vous m'avez dit c'est pas qu'ils sont blasés, mais pas loin quoi.
En fait, il y a eu tellement de compétitions où les partenaires offraient des claviers, des souris à tout va. Que les joueurs, la plupart étaient déjà équipés et ils sont habitués à leur matériel, ils n'avaient pas trop envie de changer, donc malheureusement ça les intéressait plus trop, donc du coup on a préféré rester sur de la redistribution, c'est-à-dire que l'argent des entrées qui est récolté est redistribué aux joueurs.
Ouais, à la manière d'une partie de pétanque, comme ça se fait sur les compétitions, c'est ou ça. Les parties de cartes, pareil. C'est le même principe, c'est-à-dire que c'est le fruit de ce que vous aurez récolté qui permettra de rétribuer les vainqueurs. Combien de champions il y aura?
À chaque fois, on récompense les 3 meilleures équipes du tournoi, on va dire, professionnel. Donc,
ça représente 15 personnes.
15 personnes, voilà. Et en plus de ça, on organise une tournoi, on va dire, consolante ou amateur. C'est-à-dire toutes les équipes qui n'ont pas passé les poules et qui ont perdu en 16e ou 8e de finale se retrouvent dans un deuxième tournoi pour les faire jouer au maximum, qui ne se déplacent pas pour rien. Et donc, les 3 meilleures équipes de ce tournoi amateur remportent aussi des petites dotations.
C'est sympa, c'est bien de récompenser le plus grand nombre, mais bon, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, forcément, mais c'est les règles du jeu, c'est la compétition quand même. Oui. Allez, je vous propose, oui, vous voulez rajouter.
Oui, vous m'avez posé une question pour le matériel, donc
oui.
Effectivement, ils se déplacent avec leur tour, leur écran, clavier, souris, casque, multiprise, enfin tout ça, et certains dorment sur place, donc sac de couchage, mais maintenant...
Mais la plupart vont à l'hôtel.
Voilà, là, depuis pas mal d'années, les compétitions ont bien évolué. Moi, à mon époque, tout le monde venait avec son sac de couchage et dormait sur place. Maintenant, c'est tout le monde va à l'hôtel et quelques-uns dorment sur place.
Ouais, c'est ça, les mœurs ont changé aussi.
Voilà, oui.
Voilà. Bon. J'en connais qui avaient mal au dos quand ils rentraient de compétition. Hein. Je ne donne pas de nom. Mal au dos, les cervicales, tout ça, parce que ils avaient veillé très tard et j'en ai même vu qui dormaient sur leur clavier. C'est assez impressionnant,
oui.
Hein. Incroyable. Et ils ont pour certains leur doudou. Ils ont leur mascotte,
oui.
Hein, le petit nounours, des trucs comme ça. C'est assez incroyable. Hein.
Ah,
c'est,
oui.
Ils recréent un univers affectif. Hein.
C'est ça. Il y a énormément de gris-gris qui suivent sur tous les événements. Ils les prennent avec eux. Ça leur porte bonheur. Et puis. Ça nous permet de faire des photos sympathiques aussi, où on aime bien les collectionner et Voilà, c'est sympa. C'est...
Bon, on va faire la dernière pause, enfin l'une des dernières pauses musicales, je ne sais pas trop. Et tout de suite, on va parler un petit peu de l'ambiance qui y règne, parce qu'il y a beaucoup d'animation, il y a un show dans la compétition. On va parler aussi de tout ce qu'on va retrouver autour de l'univers de ce salon du jeu vidéo, je rappelle, qui se déroule à Saint-Martin-de-Crau les 29 et 30 octobre prochains. Salle Mistral, qu'on se le dise, cette manifestation est labellisée, c'est comme ça qu'on dit, octobre numérique et musique là. Pour ceux qui vont aller dans la compétition, c'est Séverin et il dit « ça ira ». Tu verras.
D'abord, un vertige avant le saut dans le vide. Hein? Au début, tu vas penser que vous pouvez tout sauver. Hein? Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Après vos derniers cafés, lunettes noires sur le nez, hein? Viens l'appel, le secours, les amis, les discours, hein? Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Passer quelques semaines, les crises d'angoisse, la haine, hein? T'écumeras ton répertoire pour raconter ton histoire, hein? Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Alors les dîners de couple, pour qu'enfin tu la boucles, maintenant que tu parles trop. Parce que dans ta déroute, tu bois à ta santé pour un semblant de liberté. Oh, ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Tu verras les dimanches et leur programme télé, les vacances en famille à pleurer sous l'oreiller. Tu t'en voudras d'avoir aimé pour mieux se déchirer. Tu te diras que la mort, ça n'est rien à côté, hein? Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Tellement besoin des autres et des nouveaux amis entreront dans ta vie. Hein? Ça ira, tu verras. Et tu découvriras qu'il y a des milliers de choses que tu ne soupçonnais pas. Alors ton cœur apaisé supportera les dimanches, même jusqu'à les aimer. Pour le calme, le silence. Et en éteignant ta veilleuse, tu retomberas amoureuse, hein? Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira.
Bien sûr que ça ira. Ça ira le 29 et le 30 octobre prochain avec le salon du jeu vidéo à Saint-Martin-de-Crau, à la salle Mistral. Qu'on se le dise, hein, c'est Zéna Ducabro, c'est rue des Compagnons pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse. Si vous tapez ça sur votre GPS ou votre moteur de recherche préféré, c'est assez simple donc à retrouver. Je le rappelle, nous recevons l'association PXL Organisation qui organise ce rendez-vous en la personne donc de Madame Myriam Lachaise, vice-présidente de l'association, et Monsieur Julien Lachaise, président de l'association et retraité remporté du jeu vidéo en compétition. Allez, c'est un petit joke, bien entendu. Alors, vous m'avez dit, j'ai oublié de dire une chose concernant le concours d'affiches avec les jeunes gens de l'IUT d'Arles. Oui. Il y a une chose importante à dire à nos amis auditeurs, c'est qu'il y aura récompense. Hein.
C'est ça. Les deux meilleurs de chaque discipline, donc il y en a deux, comme je vous l'avais dit, une catégorie affiche et une catégorie clip vidéo, seront récompensés par un chèque et c'est financé parrainé par le Kiwanis Arles.
Alors, j'avais dit que on allait parler de l'animation que vous allez proposer, du show, parce qu'il y a un véritable spectacle qui se déroule durant tout le week-end. Il y a plein de choses à découvrir, alors indoor et outdoor également, mais vous m'avez dit aussi, c'est vrai que j'ai pas parlé du poids économique. Et moi, j'allais vous dire, mais c'est que du jeu tout ça. Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Et je fais exprès, hein, c'est exprès pour lancer le débat entre guillemets. Ça pèse dans l'économie.
Oui, et de plus en plus. Donc, j'ai souhaité montrer aux gens l'impact économique du numérique et du jeu vidéo. Et pour ça, j'ai pris des graphiques, des tableaux, enfin quelque chose de très facile.
Visuel, voilà.
Voilà, à comprendre. Je montre, par exemple, la croissance du chiffre d'affaires du jeu vidéo sur ces 5 dernières années. J'ai aussi voulu montrer l'évolution des habitudes de consommation des Français, c'est-à-dire par exemple il y a 10 ans on regardait plus la télé, on jouait un peu moins à l'ordinateur et à la console, mais maintenant on joue autant à l'ordinateur que à la console et on passe le même temps devant la télé. Ça évolue. À l'époque c'était principalement les garçons qui jouaient, maintenant il y a de plus en plus de filles, donc notre société évolue. Alors bon, il y a l'impact économique, l'évolution des habitudes de consommation et tout ça je le montre à travers des graphiques.
Alors, ça génère une économie au niveau national, insoupçonnée. C'est un petit peu comme la culture. On s'est rendu compte que la culture générait une économie très importante, oui. À concurrence même du milieu industriel en France. Ça génère de l'économie pour les gens qui vendent directement, mais également pour tous ceux qui gravitent autour, parce que j'imagine que quand on organise un salon, on fait intervenir des tiers qui ont, eux, d'autres savoir-faire, mais qui participent à la création du salon, je sais pas, en termes de logistique, location, des choses comme ça, non?
Oui, on fait travailler l'économie locale. Je vous disais tout à l'heure que les joueurs, par exemple, vont dormir à l'hôtel. Donc, c'est sur place. Même si on a une buvette au niveau du salon, très souvent, ils vont manger à l'extérieur. Lorsqu'ils sont un petit peu jeunes, s'ils ont 17 ans ou 16 ans, parfois, et même souvent, les parents les accompagnent. Les parents, ils restent pas toute la journée au salon. Ils vont visiter la région. Il y a beaucoup de choses à visiter dans le coin.
Un petit peu.
Et voilà, et on fait on va prendre des agents de sécurité, on va louer un camion.
Voilà, donc il y a l'argent généré directement par le milieu du jeu et tous ceux qui gravitent autour et qui profitent bien sûr de cette manne. Hein. Vous organisez un événement et donc ça a un poids sur l'économie locale, bien entendu. Alors, je le disais, il y a un show, il y a un spectacle, il se passe des choses, c'est-à-dire que on n'entend pas que des claviers crépiter, hein, parce que souvent ils sont avec des casques, donc on n'entend pas ce qui se passe au niveau de leur propre jeu, bien entendu, si ce n'est quelques petits cris, hurlements de temps en temps, j'imagine, non?
Oui, ils aiment bien crier un peu de temps en temps pour déstabiliser l'adversaire et...
C'est typique du sud de la France, je tiens à le préciser. On est beaucoup plus bruyant en compétition dans le sud.
Ah oui. Bon, d'accord. Mais comme ça, on existe. Alors, vous parliez de cette partie commentaire. C'est une part qui est de plus en plus présente. Il y a de plus en plus de gens qui commentent soit leur partie, soit celle des autres, et qui en font une sorte d'entertainment, quoi, d'un spectacle qui est vendu entre guillemets, hein, du moins qui est diffusé à l'extérieur. Hein.
Voilà. Donc ça s'appelle le streaming. Ça fait quelques années que c'est médiatisé, on va dire. Donc en fait, les joueurs peuvent retransmettre leur partie en direct. Et en même temps commenter leur partie. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment regarder ça parce que c'est souvent ceux qui font ça, ils ont une manière de parler, ils ont des mimiques qui font que ils sont attachants et qu'ils donnent envie aux gens de les regarder. C'est comme un comique, quoi, on va dire.
Très bonne connaissance des jeux aussi.
Voilà, souvent ils maîtrisent bien les jeux et donc on peut apprendre grâce à eux. Il y a deux types de stream, on va dire. Il y a les joueurs professionnels qui permettent de vraiment bien apprendre sur le jeu et après il y a les streamers, on va dire, comiques qui font passer un bon moment.
Ouais. Voilà. Pour certains, ils finissent à la télé ou du moins sur des chaînes dédiées à ce type d'application sur le satellite ou le câble. Hein.
C'est ça, oui. Donc, ben, en fait, il y a dans, enfin, pas encore trop en France, mais ça va venir, mais surtout dans les pays étrangers, il y a des chaînes de télévision qui diffusent du jeu vidéo en permanence avec des commentaires, des ligues qui sont jouées comme un championnat de France de football. Enfin, voilà, c'est vraiment. C'est une très grande ampleur, quoi.
Ouais. Oh, ça existe, c'est Game One, je le dis comme ça au passage.
Oui, Game One existe.
Mais qui est un petit peu en perte de vitesse, j'ai l'impression, ces derniers temps, non?
Je crois qu'elle est devenue un peu payante sur certains bouquets, c'est peut-être pour ça.
Ouais.
Mais.
Ah, mais j'ai assisté à des moments où les gars, ils étaient en train de se fighter avec leurs manettes et les commentaires avec. Moi, je trouvais ça tellement improbable et en fait, non, ça fonctionne puisque après, je l'ai vu chez mes gamins et c'est la même chose, quoi, sur leur chaîne YouTube et compagnie, quoi.
Oui, c'est tout à fait ça, voilà.
Ouais. Bon, ça fonctionne. Donc, il va y avoir cet aspect-là, représenté, bien entendu.
Ce qui permet de faire connaître Saint-Martin de Crau dans toute la France.
Et au-delà. Ne soyons pas timide, au-delà. Les joueurs le font aussi en direct pour certains, ils streament leur partie, ils auront capacité à le faire à Saint-Martin-de-Crau.
Oui, alors on a testé lundi dernier avec le service informatique de la mairie, les connexions internet, donc qui est très bien équipé. On a testé de pouvoir se connecter sur les serveurs, tout ça, mais surtout de pouvoir streamer, et donc ça fonctionne très bien. Donc il y aura aucun souci, les joueurs pourront retransmettre leur partie.
Donc ils arrivent avec leur webcam, leur micro, casque et en avant quoi.
Voilà.
Bon, c'est aussi en week-end que vous rythmez régulièrement. Il se passe des choses dans l'environnement des joueurs. Vous créez du buzz. Il y a quoi? Comment ça se déroule? Dites-moi.
Bon alors au niveau de la compétition, c'est plus on va dire un monde fermé dans le sens où ils sont concentrés sur leur partie.
D'accord. Donc faut pas trop les déstabiliser.
Non. Voilà, ils aiment pas trop en match, il faut vraiment qu'il y a une pression, il faut vraiment qu'ils soient concentrés. Donc c'est vrai qu'on peut pas trop leur poser des questions pendant qu'ils jouent, ils vont pas trop apprécier. Mais c'est normal, c'est comme un match de foot, on va pas aller sur le stade en plein milieu parler aux joueurs.
Ouais.
Donc
par contre, on fait des petites vidéos d'ambiance quand ils sont en pause, ils aiment bien plaisanter et toutes ces vidéos, toutes les photos se retrouvent sur notre site internet et par la suite les joueurs les récupèrent quand ils rentrent chez eux et voilà.
Oui, mais par contre après au niveau des animations, c'est plus là où on a une personne qui parlera au micro, qui organisera des mini tournois tout au long du week-end. Et voilà, donc là, il y aura aussi un peu d'animation.
Voilà. Et là, c'est un spécialiste, bien sûr, j'imagine, qui a l'habitude de ce type de rendez-vous.
Voilà, c'est un passionné de jeux vidéo et au fur et à mesure, il prend de l'assurance et il se débrouille très bien.
Bon, tant mieux. Alors, c'est deux univers, hein, parce qu'il y aura la salle Mistral, mais aussi la salle à Kissambin qui permet d'accueillir la partie exposition rétro gaming, c'est ça?
Alors, en fait, dans la salle Mistral, c'est principalement la compétition. Mais vu qu'on a de plus en plus de partenaires, on se trouve un peu à court d'espace. Donc du coup, on va déplacer quelques partenaires de la salle Akissienne-Bien à la salle Mistral.
Quand même, oui.
Voilà, donc on souhaite accueillir les personnes dans les meilleures conditions. Donc il y aura la partie salon du jeu vidéo qui sera principalement dans Akissienne-Bien et en plus Mistral.
D'accord, ok. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? On l'a dit un petit peu tout à l'heure, bien sûr, dans ce salon donc du jeu vidéo en dehors de la compétition, qu'est-ce qu'on va retrouver?
Alors il y a vraiment de quoi faire. Donc il y a une partie donc rétro gaming, donc il y a une quinzaine de consoles anciennes qui sont jouables. Il y a une exposition de ces consoles avec des descriptions des années de parution, les meilleures ventes, tout ça. On a réalisé avec un stagiaire de l'IUT une frise rétrospective de l'évolution des consoles. Donc ça permet de voir clairement quelle console elle est sortie en quelle année, quelle est sa génération. C'est vraiment...
Ça me rappelle...
C'est une bâche de 4 mètres. Donc...
Oui, ça me rappelle la frise qu'on fabriquait au collège ou au lycée, ouais. Hein, sur la préhistoire, le Moyen-Âge, Homo sapiens et ainsi de suite. Ouais,
c'est tout à fait ça, mais c'est vrai que c'est important parce qu'au moins on se rend compte de l'évolution. Et pour encore plus s'en rendre compte, on a réalisé une vidéo qui retrace l'évolution des consoles et des jeux vidéo. Donc on voit entre les années 70 et aujourd'hui, différents jeux pour chaque console. Donc en fait, on peut voir très clairement les premiers jeux qui étaient pixelisés, qui étaient tout simples, à des jeux d'aujourd'hui qui sont vraiment réalistes. On se croirait vraiment dans la réalité.
L'évolution graphique est terrible.
Ouais. Alors, est-ce qu'on parle véritablement d'évolution ou là, on peut dire révolution aujourd'hui?
Ah oui, c'est une révolution parce qu'on a aussi un nouveau style de jeu qui est la réalité virtuelle avec le casque l'Oculus Rift. Donc, qui sera présent sur l'événement. Donc, vous pourrez tester de nombreuses activités. Donc, il y a des montagnes russes, il y a par exemple un manoir hanté, il y a des choses comme ça. Ouais. Et donc, c'est des expériences, mais impressionnantes.
Ouais, voilà. Vous n'avez pas les prototypes de Sony, Microsoft, tout ça, pas encore, quoi.
Ben, en fait, c'est les Donc là, c'est l'Oculus Rift. Donc c'est, on a eu les dernières versions. Uh-huh. Et normalement, il y a un membre du staff qui devrait avoir le dernier casque de Sony. Donc si tout va bien, on pourra peut-être le tester également.
Ah oui, d'accord.
Mais c'est vraiment une activité à faire. Vous, enfin, c'est impressionnant.
Ouais. Donc ça à découvrir, ça fait partie justement de ce côté exceptionnel que vous allez proposer le temps du salon. Je vous laisse continuer la présentation.
Voilà. Donc au niveau des autres animations, donc on aura des bornes d'arcade. Donc c'est ça, c'était principalement dans les bars dans les années 80, 90.
Qu'est-ce qu'on va voir, Space Invaders?
Voilà, en fait, c'est des bornes qui sont multi-jeux, donc en fait, on peut choisir le jeu qu'on veut jouer, il y en a un peu plus de 500, on va dire. Et donc, il y a Space Invaders, Pac-Man, ou comme des jeux de combat plus récents, des jeux de shoot'em up, enfin, il y a un peu de tout. Et il y a un partenaire Retro Geek Style qui viendra aussi avec 4 ou 5 bornes différentes, donc il va vraiment avoir un large choix. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des flippers. Donc depuis un an, on s'est mis à racheter et restaurer des flippers parce que la plupart du temps, ils sont en panne et il faut les réparer. Donc heureusement,
c'est l'ancêtre du jeu vidéo.
Voilà, c'est un peu un ancêtre. Il était aussi présent dans les bars et ça, c'est un objet qui parle beaucoup aux quarantenaires, on va dire, et plus. Alors que les bornes d'arcade, c'est un peu plus récent et ça parle moins à ces personnes-là. Donc c'est vrai que comme on veut toucher le maximum de personnes...
Oh non, vous pouvez y aller, les quadras, il n'y a pas de souci. Les bornes d'arcade, c'était notre univers. Hein. Le flipper, c'était celui de nos parents, c'est-à-dire les ceux qui avaient 60 et plus, qui ont 60 et plus aujourd'hui, quoi, hein, quand même. Non, faut le dire.
Je veux froisser personne.
Bon.
Mais c'est vrai que c'est sympa parce qu'en fait, souvent, les parents accompagnent les enfants et... Certains se disent, bon, on va peut-être s'ennuyer, mais au final, on les voit se régaler sur les flippers, les bornes d'arcade, et même, il y a un rapprochement intergénération où, en fait, il y a le papa qui vient voir son enfant. Qui connaissait, il fait, tiens, toi, maintenant, viens avec moi, on va jouer au jeu auquel moi je jouais avant, quand j'étais petit.
Ouais.
Et il y a des scènes qui sont fabuleuses à voir, et c'est vraiment, c'est pour ça qu'on fait ça aussi dans l'animation, on aime bien voir ça.
Oui. Alors, ce qu'on aime, c'est les voir repartir avec le sourire.
Voilà, ça fait du lien, ça crée du lien, de la complicité, hein, c'est vrai. Mm-hmm. Il y aura la forme 3D, bien sûr.
Oui.
Oui.
Il y aura ensuite encore
un
stand de maquillage par Aio Sora.
Non, Aoi Sora.
Pardon, j'ai mal prononcé.
C'est une association qui fait du cosplay.
Alors, cosplay, on va expliquer en deux mots, hein, très rapidement.
Alors, c'est le fait de s'habiller comme un héros de manga ou de jeu vidéo, avec la robe ou le pantalon, la perruque, le maquillage.
Il y a des choses qui sont saisissantes.
Des accessoires, enfin, vraiment.
Ah, c'est incroyable. Hein. J'ai vu un Iron Man il n'y a pas longtemps, sur Internet, malheureusement. Assez incroyable. Hein. Il y a des gens qui font des choses exceptionnelles.
Hein. Ah oui,
Cette association va venir proposer de maquiller les enfants et même les grands, tous ceux qui le souhaitent. Et ils vont même proposer un petit atelier couture. Pour ceux qui veulent s'initier à la réalisation de leurs costumes. Donc ensuite nous aurons donc l'Oculus Rift, nous en avons parlé.
Merci.
Un jeu de musique.
Voilà, au niveau des jeux de musique, il y en a plusieurs. Donc il y a Just Dance qui est classique, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de le faire sur écran géant parce que la plupart des gens ne peuvent pas l'avoir chez eux, donc c'est assez sympa. On a les tam-tam, les bongos. Donc c'était un jeu de Nintendo où en fait il faut taper en rythme sur des tam-tam pour gagner des points. Il y a le classique Guitar Hero.
Guitar Hero, c'est ce
voilà,
que je
où
voulais,
chacun peut jouer avec une batterie, une guitare. C'est assez sympa. Ça crée des liens aussi. Au niveau des animations, donc on a le
Playseat.
Voilà. Donc ça, c'est une animation aussi qui est phare chez nous. Parce qu'en fait, c'est un siège baqué comme de voiture de sport avec un volant à retour de force, levier de vitesse, pédalier, tout ça.
Est-ce qu'il y a des vérins sur le siège ou pas?
On n'a pas le budget.
D'accord,
Là, il faudra plus de subventions, je pense.
Bon,
mais c'est vraiment une...
Elle cartonne, cette animation, les gens adorent.
Ouais. Voilà, c'est vraiment...
Il y a des gens qui s'équipent chez eux avec ça. Hein. C'est...
Voilà, de plus en plus.
Voilà.
Mais c'est...
Oui, mais ça coûte cher et ça prend beaucoup de place.
Ça prend beaucoup de place. Mais oui, mais il y en a.
Oui,
pas
oui,
beaucoup, mais
il y en a quelques-uns, oui, des passionnés, voilà. Et donc, c'est vraiment une sensation vraiment très sympathique parce que le retour de force permet de donner vraiment une résistance au volant et donc on se croirait vraiment en train de piloter une voiture de course.
Et quand on voit la qualité des jeux de course qui existent aujourd'hui, ça doit être assez exceptionnel.
Voilà.
Ensuite, je vous laisse continuer.
Alors ensuite, on a des jeux de combat sur Street Fighter V, donc c'est un jeu vraiment mondialement connu. Mais la différence, c'est qu'en fait, on propose des sticks arcade, donc c'est des vraies manettes qu'utilisent les joueurs professionnels. Et donc, ça, c'est encore quelque chose que les gens n'ont pas chez eux. Ensuite, on a une petite nouveauté qu'on est en train de développer, donc on espère qu'on y arrivera avant le salon. C'est un circuit de voitures téléguidées sur lequel on intègre des caméras miniatures dessus. Et donc, en fait, vous allez piloter avec un volant, pédalier et frein les voitures sur un écran. Et en même temps, les visiteurs pourront voir les voitures
évoluer
sur le circuit en réel, en direct. Donc, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais c'est très sympathique si on y arrive.
Nous avons aussi la participation de Level Art, qui est un artiste montpelliérain qui va venir exposer ses toiles sur le thème du jeu vidéo.
Voilà. On a également la boutique Game Club sur Aix qui fera une démonstration d'une borne PS4 et qui aussi vendra des jeux vidéo anciens du rétro gaming.
Donc, des cartouches et autres.
Voilà, pour les mordus d'anciennes consoles. J'espère qu'on a oublié personne. On a aussi du FIFA 17, évidemment, pour satisfaire tout le monde. Hein. Bah, il y a aussi des passionnés de foot, donc voilà.
Et on a oublié de parler du speedrunner.
Voilà, donc le speedrunner, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est des personnes qui essayent de finir un jeu vidéo le plus rapidement possible. Donc en fait, ils jouent tellement au jeu qu'ils découvrent des petites astuces, des passages secrets, ils contournent des bugs du jeu pour pouvoir finir le jeu le plus vite possible. Ouais. Et donc c'est retransmis en direct en général. Et donc il y a des concours pour faire le meilleur temps au
Par
au
exemple,
monde.
Un jeu pour lequel vous allez mettre 5 jours. Eux, ils vont le faire en 5 minutes.
Ouais. Ah oui, non mais oui. Et ça c'est moi ça me faisait rager quand mes enfants me disaient ça y est, je l'ai fini le jeu au bout de 3 jours.
J'ai
dit non, déjà quand même. Vous savez quoi, on arrive à la fin de l'émission. On va donner rendez-vous à nos amis auditeurs. Donc au salon du jeu vidéo à Saint-Martin-de-Crau, salle Mistral les 29 et 30 octobre. Donc animation, rétro gaming, stand information, prévention. C'est de 10h à 20h le samedi, de 10h à 17h le dimanche et donc en fin de journée à 17h, enfin un petit peu avant, remise des prix j'imagine aux différentes catégories. Là aussi ça sera un moment sympa avec présence des officiels, bien sûr des partenaires à vos côtés, hein, c'est ça. Et puis invitez tous nos amis auditeurs à venir à votre rencontre, venir découvrir un petit peu cet univers et partager de bon moment en famille, entre amis.
C'est ça, oui.
Bon, on va vous remercier. Rappelez que c'est organisé par votre association, PXL Organisation, dans le cadre d'Octobre Numérique, avec le soutien alors du département des Bouches-du-Rhône, de la commune de Saint-Martin-de-Crau, la communauté d'agglomération. Heureux de vous avoir eu sur les ondes de Soleil FM. Rappelez que cette émission va être rediffusée ce vendredi à 18h et disponible dans quelques instants sur le www.soleilfm.com. Madame, monsieur, au revoir.
Au revoir et merci.
Merci beaucoup.